Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà dans Du vent dans les pages pour déjà la troisième émission. Avant les vacances de Noël, je retrouve mes camarades lectrices, Anne et Catherine. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Oui. Bon,
il y a du soleil.
Oui, c'est voilà. Ça, exactement. Je sens que de toute façon, ça c'est imparable, on se sent tout de suite bien. Tout à l'heure, Anne, tu montrais des photos de la Loire, c'est magnifique. Hein.
Ah, oui,
sous le soleil, sous la pluie, ça, enfin tout quoi.
Et puis surtout, elle a repris un petit peu de volume, donc c'est beaucoup plus agréable.
Exactement.
Ça faisait peur, cette
ouais,
Loire.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça nous a permis d'avoir de voir la bombe.
Ah oui, hein, oui, les actualités,
si
les
basse,
actualités nigériennes.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Alors, au sommaire de cette émission, eh bien, vous nous avez préparé donc deux livres chacune. Vous allez nous en lire des extraits, et puis on retrouvera la chronique essai d'Alice, qui aujourd'hui ira en Israël. Et puis, un petit conseil BD en fin d'émission. Puis si on a le temps, on verra, on parlera bouquins encore une fois, hein, de toute façon.
C'est original.
Hein, voilà, c'est original. Ouais, ouais, ouais. Plains-toi.
On a le droit de faire un peu d'humour, non?
Anne, pour la peine, c'est toi qui commences.
Ah, voilà. Très bien.
Pourtant, elle a été sage.
Elle a été sage.
Oui, je suis sage. Alors, je vais vous parler d'un livre tout petit, qui fait 85 pages, mais qui est absolument extraordinaire. Voilà, l'auteur, c'est une jeune femme américaine qui était journaliste, pas une journaliste très connue, hein, dans un petit journal de province, qui s'appelle Cressman Taylor, et qui a écrit une nouvelle sous forme de lettre entre deux amis. L'un s'appelle Max, il est juif allemand, et l'autre s'appelle Martin. Il est allemand également, mais il n'est pas juif. Alors, ces deux amis ont une galerie de peinture à San Francisco. Et Martin a eu une liaison assez orageuse, bien qu'il soit marié, père de famille, avec la sœur de Max. Ça s'est terminé. Grisel, cette jeune fille, est repartie à Vienne, où elle est une actrice fort connue. Donc, Martin décide de ramener sa famille. Nous sommes en 1932. Hitler a renversé le chancelier au pouvoir et a pris sa place. Et il a l'intention, alors je parle de Martin, d'élever ses enfants dans la vraie culture allemande. Et le meilleur moyen, c'est de rentrer en Allemagne. Alors, il n'a pas d'idée particulière sur Monsieur Hitler. Mais il écrit à son ami sa première lettre en parlant de la situation en Allemagne. Et il dit ceci. Je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. On s'en rencontre en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Les gens se sentent stimulés. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Là, je m'arrête pour vous rappeler qu'après la guerre de 14, donc après 1918, s'est abattue sur l'Allemagne une époque absolument épouvantable avec les gens qui prenaient leurs valises pour aller payer la baguette de pain ou deux œufs, qui faisaient des queues terribles, qui n'arrivaient pas à se chauffer, il faisait un froid polaire. L'Allemagne était totalement ruinée. Arrive Hitler qui a commencé à dire « il faut absolument redresser le pays, moi je peux vous apporter les éléments, et les éléments c'est à l'autorité qu'on... Bon. » Je continue. « Ils n'ont plus honte, ils croient de nouveau en l'avenir. Peut-être va-t-on enfin trouver un moyen de mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire, on a trouvé un guide. » Pourtant prudent, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public, puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime. Je clame au contraire ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale, qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le National Socialisme, c'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais en même temps, cette attitude est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée. Donc, Max reçoit cette lettre et conteste en lui disant « Écoute, c'est très bien d'être avec le pouvoir et d'avoir un poste important, puisqu'il est dans une banque, il est cadre de banque. Mais méfie-toi, parce que j'entends parler de... J'ai des rumeurs absolument incroyables qui me reviennent à l'esprit. On enferme les Juifs. Pourquoi les Juifs? Qu'est-ce qu'on fait les Juifs? Etc. » Donc, les lettres se succèdent, mais... on sent chez Martin une évolution. En ce qui concerne les mesures sévères qui t'affligent tellement, je dois dire qu'au début, elles ne me plaisaient pas non plus. Mais j'en suis arrivée à admettre leur douloureuse nécessité. La race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Je n'ai jamais haï les Juifs en tant qu'individu. Toi, par exemple, je t'ai toujours considéré comme mon ami. Mais sache que je parle en toute honnêteté quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Donc il y a une évolution qui se fait, une froideur dans leur relation. Donc consciencieusement, Max envoie à Martin les comptes pour la galerie, sa participation, enfin les résultats et l'argent auquel il a droit, etc. Et puis un jour... Max écrit à Martin en lui disant « Je suis un peu inquiet parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas eu de nouvelles de Grisel. Grisel a accepté d'aller à Berlin, puisqu'elle est une actrice très connue à Vienne. Grisel a accepté un poste dans un théâtre où elle joue un rôle important dans une pièce, dans un théâtre important de Berlin. » Donc, Grisel n'a pas donné signe de vie depuis... deux mois, et il se pose vraiment des questions. Il ne sait pas trop quoi en penser. Mais en même temps, excusez-moi, je cherche ma page. En même temps, cette lettre que lui a envoyée Martin l'inquiète terriblement, et il reçoit une seconde lettre qui lui dit: « Hélas, Max, tout cela va te blesser, je le sais, mais tu dois accepter la vérité. Parfois, un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient. Là, nous sommes vraiment dans la position hitlérienne qui est « le collectif passe avant l'individu ». Pour ma part, j'y adhère corps et âme. Heinrich est officier dans un corps de jeunesse. Heinrich, c'est son fils aîné. Sous les ordres du baron von Freisch. Le nom de ce dernier rehausse encore notre maison, car il rend souvent visite à Heinrich et Elsa, qu'il admire beaucoup. Quant à moi, je suis débordée de travail. Elsa ne s'intéresse guère à la politique, elle se contente d'adorer notre noble chef, chef avec un grand C. Elle se fatigue vite car elle attend un nouveau bébé. Je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance, Max. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle. » Donc, a priori, la correspondance entre Max et Martin s'arrête. Mais il y a cette disparition de Grisel qui l'inquiète. Donc, Max réécrit à Martin en lui disant « L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé d'affection et d'amitié, ne peut pas s'associer, même passivement, au massacre de gens innocents. Je garde confiance en toi et je prie pour que mon hypothèse soit la bonne. Il te suffit de me le confirmer par lettre, par un simple oui, à l'exclusion de tout autre commentaire qui serait dangereux pour toi. » Réponse de Max, on m'a remis ta lettre, la réponse est non. Alors, je cherche en vain la lettre correspondant à Grisel. Voilà, nous y arrivons.
Mais dis tout, mais dis tout. C'est ça qui est bien.
Excusez-moi parce que j'ai perdu mon petit bout de papier.
Ah, alors, tu es tout excusée, Anne.
C'est toujours pareil. Voilà. Martin, dois-je te demander de chercher Grisel? Tu l'as aimée, tu as connu sa grâce et son charme, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'hésite pas de m'écrire, mais je sais que tu n'as même pas besoin que je te demande ton aide. Tu vas le faire. Alors, d'accord. Et puis, voilà la réponse de Max. Une lettre absolument terrible que je tiens à vous lire en entier parce qu'elle est, vraiment épouvantable et elle justifie le reste du livre. « Hi Hitler, Je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici avec une horde de SA qui défilait sur le chemin, pratiquement sur les talons. La maison était pleine de monde. Elsa n'était pas bien depuis la naissance du petit Adolphe. Le médecin était là ainsi que deux infirmières. Tous les domestiques et les enfants couraient partout. Par chance, c'est moi qui ai ouvert la porte. Tout d'abord, j'ai cru voir une vieille femme et puis j'ai vu son visage. J'ai vu aussi les SA qui passaient déjà devant les grilles du parc. Avec Elsa couchée, là-haut, malade, comment aurais-je pu supporter que ma maison fût mise à sac? Et pouvais-je courir le risque d'être arrêtée pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre tout ce que j'avais construit ici? Bien entendu, mon devoir m'apparaissait clairement. Elle avait montré sur scène son corps impur à des jeunes Allemands. Je devais la retenir et la remettre sur le champ au SA. Donc, Max reçoit cette lettre. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus question d'amitié entre Max et Martin. Donc, il met au point une façon diabolique de détruire son ancien ami. Et à partir de ce moment-là, des lettres vont parvenir à Martin, à la banque, puisqu'il ne donne plus son adresse chez lui, et vont parler... ces lettres d'amis juifs communs, de parents juifs communs qui se portent bien, Dieu merci, de la participation de Martin dans une exposition de peintres allemands dégénérés, refusés en Allemagne, mais très bien accueillis à San Francisco, et de sommes qu'il fait passer en Suisse, de façon à ce que l'argent parvienne à Martin, sans avoir à le remettre aux autorités compétentes, etc. Et naturellement, Martin envoie une lettre absolument affolée à Max en lui disant « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu m'as détruit, on m'a chassé de ma banque, mon fils a été chassé des jeunesses hitlériennes, personne ne veut plus adresser la parole à Elsa ». Je ne sais plus quoi faire, on vérifie tous mes comptes, on me demande justification de tes lettres et du contenu de tes lettres, je t'en supplie, fais quelque chose, ma famille va disparaître et je risque d'être arrêtée. Et la lettre suivante, Max continue en lui disant que pas de problème, il est très content de pouvoir lui dire que Sarah va beaucoup mieux grâce à l'argent qu'il lui a envoyé, etc. Et cette lettre revient avec la mention inconnue à cette adresse, qui est le titre
du livre.
De la nouvelle.
De la nouvelle, oui.
C'est... ce qui est extraordinaire, c'est que, je ne l'ai peut-être pas dit au début, cette nouvelle a paru en 1938. Donc, les camps de concentration, on avait une très vague idée de camps comme Theresienstadt, où on gardait les intellectuels qui risquaient de s'opposer légèrement à M. Hitler, mais sans plus, on les mettait simplement dans un camp, point, ça s'arrêtait là. Ça a été un succès absolument incroyable aux États-Unis. Le Reader Digest, qui avait 3 millions de lecteurs, l'a fait paraître. Et 1939 arrive, la guerre. Les Anglais avaient demandé le manuscrit pour pouvoir également le diffuser en Angleterre. Mais comme la guerre arrive, on ne le fait pas et la nouvelle est oubliée. Et puis, en 1999, quelqu'un a eu l'idée très intelligente de ressortir le document et de le rééditer. Et il a fait 400 000...
En Europe ?
En Europe, ouais. Voilà, en 1999. Ouais. Et on a considéré que c'était la nouvelle parfaite par excellence.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Alors, une petite chose à ajouter, je trouve, puisque dans les émissions précédentes, on avait parlé de Jane Austen, de George Eliot. Quand elles ont publié leur livre, on leur a demandé de prendre des pseudos parce qu'une femme ne pouvait pas écrire ça. Ça a été publié sous le nom de Cressman Taylor. En fait, Cressman, c'est son nom de jeune fille. Taylor, c'est le nom de son mari. Elle s'appelle Catherine, en fait.
Oui,
mais le rapprochement des deux pouvait faire croire que Cressman était un prénom. Et comme, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une femme puisse écrire ça. D'accord. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait un nom de femme qui apparaisse sur la couverture.
Okay. Une fois de plus.
J'en, voilà. j'en rajoute une petite couche.
Voilà, c'est ça.
Oui,
c'est,
oui, mais
on
c'est
en
tellement
est à la
évident.
Peine, là.
Ouais. Tellement évident.
D'accord. Mais c'est très intéressant de raconter un petit peu de temps en temps la genèse d'un livre, parce que c'est vrai qu'un livre, comme, surtout comme celui-là, ça a une histoire, et ça a une histoire malheureusement voilà. dramatique. Voilà. Mais en même temps, c'est bien que ce soit de nouveau entre nos mains. Quoi.
Exactement. Hein
et c'est en collection poche, donc c'est accessible à tous.
J'ai lu. C'est
j'ai lu là.
Voilà.
Enfin, j'appelle ça les
mais je trouve qu'il y a en plus une explication extrêmement claire pour les jeunes. Moi, je l'ai fait lire à mon petit-fils qui a 14 ans et qui a été passionné, qui a demandé des explications, chose que je n'arrivais pas à voir le reste du temps, parce que la montée du nazisme est expliquée très clairement.
Clairement, oui, tout à fait.
Sans fioritures.
Tu nous rappelles le titre hein,
alors, Inconnu à cette adresse. L'auteur s'appelle Cressman Taylor et c'est édité chez J'ai lu. Pour 4,50 €, on a toute la vérité sur M. Hitler.
Et ben voilà, merci Anne. Catherine.
Voilà, alors je l'ai lu et je peux confirmer que même si on sait déjà pas mal de choses hein, grâce à ta lecture, mais ça vaut vraiment le coup de le lire.
Ah oui, parce et puis de lire et le relire, voilà. Parce que quelquefois, on oublie. La conversation que nous avions hors micro tout à l'heure disait que certains livres, on les oublie.
Et en fait, on n'oublie pas.
Ouais. Non, on ne peut pas l'oublier.
Voilà.
Et toi, Catherine, alors ?
Alors, j'allais dire, moi, ça va être plus léger, mais quoique... Pas vraiment. Non. Alors, moi, je donne plutôt dans le roman d'aventure. Donc, ça peut plaire à tout le monde. C'est accessible à tous. On va vous raconter une aventure. Sauf que cette aventure devient un petit peu compliquée pour les deux héros. Alors, d'abord, je vais vous dire qui est l'auteur. C'est Isabelle Autissier, donc, qui est bien connue parce que c'est un marin plus qu'émérite. Hein. Isabelle Autissier, c'est la première femme à accomplir le tour du monde à la voile en solitaire et en course. Donc, c'est à souligner. Mais elle a également...
C'est quelqu'un d'engagé aussi.
Alors, c'est quelqu'un d'engagé. Elle a été présidente, je ne sais pas s'il est toujours de la fondation WWF. Mais elle est aussi écrivain, les gens le savent moins. Elle est l'auteur de romans, de contes, d'essais, même de livres pour enfants d'ailleurs. Voilà, un qui a été très connu aussi, c'est L'Amant de Patagonie, on en a beaucoup parlé, peut-être parce que peut-être eu un prix, je ne sais plus. Donc celui dont je vais vous parler, ça s'appelle Soudain, seul, avec un S. Voilà. Alors l'histoire, c'est un couple de trentenaires, très, très amoureux, qui vivent ensemble depuis pas mal d'années, et puis ils décident de faire... j'allais dire, une sorte de coupure dans leur vie. Alors, c'est plus... je recherche leur prénom, voilà. Louise et Ludovic. Donc, ils se complètent parfaitement. Lui, c'est un battant qui va de l'avant. Elle est plus, disons, raisonnable, réfléchie, mais bon, elle a plus le sens des réalités, peut-être. Et il lance cette idée de faire le tour du monde en voilier, comme... Ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas les derniers. Ils partent sur un bateau, la mer, l'aventure qui, en général, finit bien. Enfin, on découvre le monde, on découvre les autres, on se frotte aux éléments et on se découvre aussi soi-même, en général, dans ce genre d'histoire. Tout va bien. À un moment, ils descendent vers la Patagonie, donc ils sont au large de l'Amérique du Sud. Et puis, c'est Ludovic qui a une envie. Il a envie d'accoster sur une île de l'hémisphère sud qui est interdite au public. Mais enfin, voilà. Tout simplement parce que c'est une ancienne base baleinière, donc qui a été fréquentée, qui est abandonnée, mais des scientifiques s'en servent encore. Donc, il y a des relevés, des choses comme ça. Donc, elle est interdite au public. Mais ils ont un ami qui a également passé du temps dans les eaux dans cette région et qui leur a dit « Oh, j'ai vu un site extraordinaire. Si vous passez là par là, allez-y, c'est fabuleux. » Puis personne ne le voit, etc. Enfin, c'est toujours pas la même chose. Donc, Ludovic insiste pour voir sur cette petite île perdue ce fameux site et il arrive à convaincre Louise d'accoster, enfin de mouiller, pas d'accoster bien sûr, de mouiller au large de cette petite île et avec leur petite annexe, ils vont sur cette île. Donc, une île déserte, coincée entre la Patagonie et le Cap Horn. Donc, c'est vraiment en bas. Donc c'est une nature rêvée, sauvage, tout est merveilleux. Et donc ils commencent, ils partent dans l'île. Alors je peux lire quelques phrases pour que vous ayez une idée du style. Ils sont partis tôt, donc ils sont arrivés sur l'île. La journée promet d'être sublime, comme savent parfois l'être ces latitudes tourmentées. Le ciel d'un bleu profond liquide, de cette transparence particulière au 50e sud. Pas une ride à la surface. Jason, leur bateau semble en apesanteur sur un tapis d'eau sombre. Les albatros, en panne de vent, pédalent doucement autour de la coque. Donc ils tirent leur annexe, ils s'installent. Ils savent qu'ils ont 3 bonnes heures de marche. Mais ils ont un peu traîné parce que c'est beau, parce que voilà, il y a des tas de bonnes raisons de traîner. Allez, c'est l'occasion ou jamais d'aller voir ce fameux lac sec. Hervé m'a dit qu'on ne rencontrerait cela nulle part ailleurs. Ce dédale de glace posé à terre. Tu te souviens des photos incroyables qu'il a montrées, donc ils font leur grande balade de 3 heures. Louise s'inquiète un peu parce que le ciel s'obscurcit. Elle lui dit qu'il faudrait peut-être rentrer, mais il est toujours enthousiaste. Ils arrivent à ce fameux lac et la pluie se met à tomber et elle interrompt leur contemplation. De toute façon, elle est pourrie, cette glace. Hervé s'est amusé à monter dessus, mais franchement, je vois pas l'intérêt. On ferait mieux de se dépêcher de rentrer. Le vent se lève et ça risque d'être sportif avec le petit hors-bord de l'annexe. Là, Louise ne râle plus. Elle est tout simplement passée aux commandes. Ludovic connaît ce ton de voix sans appel. Il sait aussi qu'elle a souvent du flair et un bon jugement. Va pour le demi-tour. Donc, ils se dépêchent de retourner à leur bateau, ils reprennent leur petite annexe, mais le vent est de plus en plus déchaîné. Ils voient leur voilier qui danse sur les vagues, donc ils partent avec leur annexe, ils sont rejetés une première fois, ils repartent avec leur annexe, ils sont complètement rejetés. Il y en a même un des deux qui est blessé à l'épaule parce que l'annexe se retourne, et ils se rendent compte qu'ils ne pourront jamais retourner au bateau ce soir. Donc, en désespoir, ils vont s'installer dans cette vieille bâtisse abandonnée depuis des décennies, dans cette ancienne base baleinière. On imagine, ça pue, c'est rouillé, c'est moche. Mais bon, pour une nuit, ils tirent un vieux matelas, ils essaient de faire du feu qui les enfume complètement. Ils tombent des cordes dehors. Enfin, bref, c'est pas rigolo, mais il faut passer une nuit un peu mouvementée. Donc, ils arrivent tant bien que mal à dormir à peu près. Et au matin, donc Louise se réveille. Ludovic, tu dors ? On dirait que c'est fini. Il s'ébroue, ankylosé. Elle grimace en se redressant et se tâte longuement l'épaule. Pas cassé, je pense, mais c'est toi qui seras à la manœuvre pour un bout de temps. Ok, princesse. Allez, l'hôtel n'était pas grand luxe, mais le petit déjeuner sera servi à bord dans un quart d'heure. Si madame veut se donner la peine... Ils se sourient, ramassent leurs affaires et quittent la pièce où traîne l'odeur de fumée froide. Dehors, le soleil resplendit aussi fort que la veille. Foutu pays, non ? Sur le pas de la porte, ils ont exactement la même impression. Une poigne violente leur agrippe le ventre, une bouffée âcre leur remonte dans la gorge comme une brûlure. Un tremblement incontrôlable les agite. La baie est vide. Le bateau... Pas possible. Plus là. Alors, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'on est à la page 20, alors il y a le temps. Donc voilà, ils sont bloqués sur cette île déserte. Leur bateau a disparu parce que la mare n'a pas dû tenir à cause de la tempête. Donc ils ne savent pas où est le bateau. Ils n'ont plus qu'une petite annexe et pas grand-chose d'autre. Donc ce qui est intéressant dans ce roman, comme tous les vendredis et autres, et les Robinson, c'est comment survivre dans un milieu hostile. Ça, c'est le premier point classique, Jules Verneste en diable. Donc, il se débrouille. La nourriture, évidemment, principale, c'est les manchots. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils attaquent le manchot. Donc, on les voit essayer de rendre habitable leur cabane, de créer un poêle, de trouver de la nourriture, d'essayer de se protéger du froid. Donc, tout cela est plutôt dur, mais excitant. Mais là où... Enfin, ce qui est intéressant dans le roman d'Isabelle Autissier, c'est que ça dépasse ce côté un peu Robinson. C'est vraiment... Alors, si, comme dans Robinson, c'est vraiment l'instinct de survie, bien sûr. Comment on s'organise, comment on se débrouille. Comment on perd aussi un peu de son humanité chaque jour. Et c'est là que ça devient intéressant. Et d'abord, comment l'amour peut-il résister contre l'adversité ? Comment faire face sans sombrer à l'extrême solitude, à la faim, au froid ? Et comment ne pas devenir un animal ? et qu'est-ce qui fait de nous des hommes. Donc, c'est toutes les questions qu'il y a derrière sur ce couple et comment on vit à deux, même si on s'aime. Est-ce que l'instinct de survie, comme pour un animal, on va dire qu'il faut faire un choix et le plus faible doit disparaître. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont posées. On est vraiment... Alors, le style est... Enfin, je veux dire, il est... Comment dire ? Il est simple. Enfin, c'est, je veux dire, il n'y a pas de grandiloquence. Il y a bien sûr des très belles descriptions, puisqu'il y a quand même un lieu hostile, mais beau.
Description de la nature.
Voilà, de la nature. Mais c'est vraiment l'histoire, malgré tout, d'un cauchemar. Parce que je ne vous dirai rien de la fin.
Non.
Enfin, de la fin de l'aventure et de la fin du roman, qui sont en plus... il y a aussi un coup de théâtre à la fin du roman. Donc, il y a vraiment... jusqu'au bout, on est tenu par ce roman. Donc, c'est l'histoire d'un cauchemar, mais aussi l'histoire d'une renaissance. Et franchement, quand vous commencez le livre, vous n'avez pas tellement de raison de l'arrêter.
Mais sans dévoiler la fin, ça nous donne, est-ce que ça nous donne quelques éléments de réponse à toutes ces questions ou on reste quand même
oui.
En suspens ?
Oui, oui, parce que ouais. Justement, j'ai dit que c'est l'histoire d'un cauchemar et d'une renaissance. Mmh. C'est-à-dire, voilà, comment on réagit, comment on peut vivre avec ça, comment on peut...
survivre à ça.
Survivre, ouais. Voilà, survivre et surmonter toutes ces questions existentielles pour vivre. Mmh. Et quelle est la responsabilité de chacun, voilà, entre fatalité, responsabilité, destin, etc. Mais c'est ce lien entre à quel moment on devient animal, plus humain, voilà. C'est
plus ou moins.
Hein. Voilà. Mmh. Et franchement, c'est passionnant.
Tu nous rappelles le titre ?
Soudain seul, avec un S, puisqu'ils sont deux. Soudain seul, Isabelle Autissier. Alors, ça a été publié chez Stock, mais comme je crois qu'il est 2015, donc il doit exister en collection poche. Ouais. Sinon, il existe dans les bonnes bibliothèques de Blois, etc.
Merci beaucoup, voilà. Catherine. Du vent dans les pages, sur Studio Zeph.
Ça termine bien.
On ne sait pas si ça se termine bien, Anne. En tout cas, c'est
moi,
à toi.
Moi, je sais.
C'est à toi de nous présenter ton deuxième livre.
Elle est curieuse, hein.
Oui, toujours.
C'est bien, c'est pas un vilain défaut du tout, là.
Oui, mais là, l'idée, c'est qu'il faut le lire.
Ah bah oui, bien sûr.
Quand j'étais enfant et qu'on m'offrait un livre, je commençais par lire les deux dernières pages. Si ça me plaisait, à ce moment-là, je lisais le livre.
Eh ben, ça ne dirait pas tout.
C'est vrai que c'est trompeur, parfois. Hein. En effet.
Alors, je vais vous parler tout à fait autre chose. Au rendez-vous de l'histoire de cette année, on a fêté une romancière de polar qui s'appelle Anne Perry. Elle est venue nous voir, elle a fait une carte blanche absolument passionnante. Enfin, bon. Alors Anne Perry, elle a écrit toute une série de polars consacrés aux enquêtes de l'agent Pitt, enfin de l'inspecteur Pitt. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est son tout premier livre. C'est-à-dire, on découvre l'agent Pitt au plus ras de l'échelle, hein, l'agent avec la capeline, le chapeau tromblon et puis les bottes trouées, et qui a un secteur qu'il parcourt à pied. Et donc, un crime vient d'avoir lieu dans une rue très chic de Londres qui s'appelle Cutter Street. Tout au long de cette rue, il y a des hôtels particuliers et dans le bas de la rue, il y a, ça commence à être beaucoup moins chic. Il y a des maisons abîmées. Je ne parlerai pas de masure, mais enfin, petit bourgeois moyen qui finit difficilement ses fins de mois. Bon. Deux jeunes filles ont été assassinées de la même façon, étranglées avec un fil de fer très mince par derrière. À l'heure entre chien et loup, alors qu'elle rentrait chez elle. Donc, l'agent Pitt enquête tout du long de cette fameuse Cutter Street et pénètre chez les différents propriétaires, et en particulier chez M. et Mme Ellison, qui sont de riches bourgeois, rentiers, qui ont un hôtel avec domestique et qui ont trois filles. Une qui est mariée avec, et qui vit avec son mari dans un appartement de l'hôtel. Une seconde qui s'appelle Charlotte et une troisième qui s'appelle Aileen. Alors, Charlotte, l'aînée qui s'appelle Sarah, est la parfaite représentation de la jeune femme élégante et bien élevée sous tout rapport de l'époque victorienne. Nous sommes sous la reine Victoria. Les femmes n'ont absolument pas droit à la parole. On leur demande de faire des enfants et de gérer le domestique de façon à ce que leur mari rentrant se mette, vulgairement parlant, les pieds dans les charentaises, lise son journal et soit servi. Donc, Charlotte ne voit pas du tout les choses comme ça. C'est une jeune fille qui est pleine de caractère, qui a un énorme défaut pour l'époque, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense, et sans l'envelopper de fioritures. Donc, elle est absolument immariable. Les parents commencent à penser que c'est même pas la peine d'espérer que Charlotte, elle a beau avoir 16 ans, on sait déjà ce qu'elle va donner à 20 ans, et alors à 25, n'en parlons pas. Le père a beau essayer de maintenir l'éducation qu'il a voulu faire pour ses filles, c'est-à-dire leur interdire les journaux, leur interdire les romans, leur autoriser tout juste la conversation avec leur mère et leur grand-mère. Elles sont vraiment dans un cocon. La troisième, alors la troisième est un mélange des deux. Elle est extrêmement bien élevée comme la première et elle sait surtout parfaitement adapter sa façon de réagir aux personnes à qui elle s'adresse. Mais elle a quelque chose de plus que sa sœur aînée. Elle sait extrêmement bien ce qu'elle veut. Elle veut épouser un homme titré et être une lady. De préférence riche.
Et veuve très vite, peut-être.
Non, pas du tout.
Ah, non.
Pas
ah,
du bah, tout, alors, mais disons que les alentours sont plus importants que le... Bon. Donc, autour de cette famille, il y a donc le mari de la sœur aînée et il y a un fiancé très, très avancé dans sa façon de gérer le problème pour la troisième. Et Charlotte, qui, bien entendu, chaque fois qu'un problème se pose, met les pieds dans le plat et explique que, pour elle, une femme a le droit de penser exactement comme un homme, une femme a le droit de dire ce qui lui plaît, et si autour d'elle, elle a des andouilles, eh ben elle le dit. Hein, bon, alors le terme d'andouille est plutôt moderne, mais c'est le style. Et donc, l'agent Pitt arrive par là-dessus et... vient poser des questions. Alors, il commence par refuser d'entrer par l'entrée des fournisseurs. Pas question qu'en principe, un policier, c'est quelqu'un... c'est plus bas qu'un maître d'hôtel. Hein, bon. Lui, non. Il est comme ça. Il rentre par la grande porte. Bon. Et puis, il commence à poser des questions. Et alors, c'est tellement énorme, parce que lui, il vient d'un milieu modeste. Il est pauvre comme Job. Il n'a même pas de quoi s'acheter un manteau. Donc, il a trois cache-nez qui l'entourent pour se protéger du froid. Mais il a pour lui des yeux absolument magnifiques et surtout, un esprit extrêmement acéré, pointu, une réflexion très... très avancé, qui fait que tout ce qui est dorure, enfin, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, cette fameuse enquête va se poursuivre et il se trouve qu'une jeune fille du domestique de l'hôtel est, elle aussi, assassinée. Ça en fait trois. Et donc, l'enquête se resserre, le filet se resserre autour des gens qui habitent l'hôtel Ellison. Donc, naturellement, il est impossible de penser que c'est un homme qui a fait ça, étant donné la force utilisée pour serrer pour serrer le fil de fer. Et donc, Charlotte et Aileen, sa sœur cadette, commencent à faire une enquête et passent en revue le fiancé d'Aileen et le mari de Sarah et leur père, dont elle découvre qu'il a une maîtresse pas très loin et que pourquoi pas, après tout, il rentre le soir à la nuit tombée. Bon. Dans tout ça, par-dessus tout ça, si je peux dire, il y a cette attirance qui va rapprocher l'agent Pitt, qui lui est vraiment dans le bas de gamme, et Charlotte, qui est une jeune fille de la très haute bourgeoisie, etc.
Une histoire d'amour dans la lutte des classes.
Il y a une histoire d'amour dans l'histoire de...
Quand même.
Bien sûr, et puis vraiment très, très jolie, parce que d'une certaine façon, il y a l'impact social qui est par-dessus cette attirance. Donc...
Il va falloir conclure, Anne.
Oui, oui. Donc, ce livre est une excellente analyse de l'époque victorienne, avant toute chose.
Oui.
Bien entendu, c'est le premier d'une longue série d'enquêtes. L'agent Pitt va épouser Charlotte. Les enquêtes suivantes seront faites par l'inspecteur Pitt et Madame.
Et tu ne dis pas la fin. Hein.
Non, je ne dis pas la fin. Et à chaque fois...
Déjà, on sait que ça finit bien. Ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants.
Beaucoup, j'en sais rien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que toutes les enquêtes d'Anne Perry sont de la même façon. Les crimes se passent dans la haute société. Lui, il arrive là et puis il met les pieds dans le plat. Mmh. Et sa femme l'aide parce qu'elle a un carnet en or, finalement. Et donc, elle lui permet de pénétrer dans les différentes arcanes, en passant par la domesticité, etc. Voilà, je vous recommande ce livre qui est absolument passionnant. Et c'est le premier. Moi, j'adore les premiers. Je trouve que...
Oui, c'est toujours... pas la première fois, effectivement.
Bah, c'était pareil pour Venise, la série.
Exactement. Voilà. Et je pense que le suivant, ça sera pareil. parce que je trouve que c'est toujours le premier qui pose les jalons et qui est le mieux travaillé.
Oui, pour toi, ça se vérifie à tes lectures.
Ah, tout à fait. J'adore ce genre de choses. Donc, j'en ai quelques-uns à vous soumettre. Et vous verrez, si vous vous décidez à lire ce livre, qu'il est absolument bien travaillé et vraiment passionnant.
Alors, rappelle-moi.
Alors, ça s'appelle « L'étrangleur de 14 Street », titre parlant. L'auteur s'appelle Anne Perry. C'est dans la série 10-18 Grand Détective. Et c'est... passionnant. Voilà.
Merci, Anne.
C'est traduit, hein. Ah, dis pas le nom des traducteurs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on...
Je te ferai.
C'est pas mal.
Ce sont des
même.
Auteurs.
C'est vrai. C'est
sans
vrai.
Eux, pas de roman pour nous.
Exactement. Traduit de l'anglais par Anne Almel.
Voilà. Non, c'est vrai.
Voilà.
C'est très important.
Je le saurai pour la prochaine fois, excusez-moi.
Non, c'est vrai. Bien remarqué.
Ah, désolée. Mais c'est vrai que moi, je suis
tout à fait.
Des formations professionnelles.
Tout à fait, c'est une très bonne idée.
Catherine, à toi. Qu'est-ce que tu nous racontes au côté ?
On retourne en France. Allez. Moi, je vais en Bretagne, dans la rade de Brest. Voilà. Ah, oui,
ça
on
peut
a
être,
la mer.
Ça peut être des paysans.
Eh bien, oui. Alors là, il n'y a pas de... C'est pas la notion de suspense comme dans tout ce qu'on vient de voir. Parce qu'en fait, le livre commence par la fin, si je peux dire. Donc, je vais vous parler d'un livre de Tanguy Vielle, qui a écrit beaucoup de romans. Je ne sais pas s'il en a écrit peut-être 7 ou 8 déjà, à l'époque quand il a sorti celui-là. Et qui s'appelle, assez sèchement, Article 353 du Code pénal.
Bon.
Voilà, on se dit, oh là, ça ne va pas être folichon.
C'est pas un polar.
Oui, oh, quoi que ça
c'est
pourrait...
après, justement, il y a un meurtre.
D'accord.
Alors, c'est un roman, c'est publié aux éditions de Minuit, ce qui est bon signe en général. Alors, c'est quoi ce bouquin ? Eh bien, donc ce bouquin se déroule, en fin de compte, c'est un huis clos. Mais il n'empêche, vous allez voir, on sort. Hein, quand même. Mais c'est un huis clos et on commence, j'allais dire, par la fin. On a découvert le corps d'Antoine Laznec, il y a du polar, hein, qui est un promoteur immobilier, qui a été rejeté par la mère. Donc, il est mort noyé. Et on vient d'arrêter Martial Kermer, un nom bien breton, donc, qui vient d'être arrêté par la police.
et il est déféré tout de suite devant le juge. Et donc, c'est dans ce huis clos avec ce juge qu'il va retracer le cours des événements qui l'ont mené là. Donc, tout, on croit que tout est dit au début, mais on va comprendre que tout est gris.
D'accord.
Tout est gris, voilà. Alors, cet homme, Martial Kermer, c'était un ouvrier qui travaillait à la rade, évidemment, chômage, débauchage, etc., etc. Il a divorcé, il est seul, il a la garde de son fils, Erwan. Il faut qu'il se débrouille pour vivre et surtout pour vivre pour son fils. Il a un petit boulot, en fait, il y a un immense domaine qui est abandonné, enfin qui n'est plus habité, et il vit la maison du gardien, et en échange, il s'occupe du domaine, de le garder en état, voilà. Donc il vivote comme ça, et c'est à ce moment-là de l'histoire qu'il y a un type qui débarque, un agent immobilier, le fameux Laznek, qui débarque dans ce village de quelques milliers d'habitants, village sinistré, on l'a compris, donc, et qui vient, en l'écoutant, on est persuadé que le Père Noël existe, quoi. Donc je vais vous lire juste. Alors il faut savoir que il raconte, donc c'est à la première personne. Je vais vous lire au début l'arrivée, quand il explique l'arrivée de ce monsieur Laznek. Sûrement ce genre de type, j'ai dit au juge, si on avait été dans un village de montagne ou bien dans une ville du Far West, 100 ans plus tôt, sûrement on l'aurait vu arriver, à pied, peut-être franchir les portes de la ville, à cheval, s'arrêter sur le seuil de la rue principale, en tout cas depuis le relais de poste ou le saloon, on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire. Mais le fait est qu'on ne l'a pas vu arriver. Nous, on l'a plutôt vu pousser comme un champignon au pied d'un arbre. Et il fallait déjà qu'il ait atteint une sacrée taille pour qu'on commence à voir quelque chose. Donc ce monsieur, il a des projets grandioses pour cette ville. Et justement sur ce fameux domaine que garde Kermer. Puisque donc il avait cela, des projets. Et voyez déjà le genre de type que c'était, j'ai dit au juge. Un type qui avait des projets. Ici, je peux vous dire, c'est pas un mot qu'on entendait très souvent ces dernières années. Vu peut-être l'état des forces en présence, vu les 5000 habitants un peu là de la presqu'île. Ici, je sais pas si on peut dire plus qu'ailleurs, mais on sentait cela depuis longtemps. L'humeur du ciel abattue sur la rade, là, sur les sentiers côtiers, dans les allées du bourg et jusque dans les réunions du conseil municipal. On sentait cela, une fatigue. Et donc, il va remonter toute cette histoire d'escroquerie, puisqu'évidemment ce Kermer, ce Laznek est un escroc, où tous ces pauvres types, dont lui, donc c'est lui qu'on analyse, mais il n'est pas la seule victime, qu'est-ce qu'il a, il y a tellement cru à ce projet, alors d'une, je ne sais plus si c'est genre balnéo, machin, enfin un projet grandiose, voilà, Thalasso, Marina et tout. Ouais. Et donc, il y a tellement cru, parce que l'autre est quand même brillant dans son escroquerie, qu'il a même mis sa prime de licenciement, c'est-à-dire toutes ses économies et l'avenir de son fils. Donc, on imagine toute cette rancœur qui s'accumule. Et on va, au fil de son récit, revivre toute l'histoire, comment cet homme les a conquis, trompés, abusés. Il a même abusé le maire, enfin tout le monde. Alors, même là, c'est ma petite parenthèse, parce que vraiment, je trouve le roman passionnant comme analyse, justement, de cette faiblesse humaine qui se laisse embarquer par le premier joueur de flûte qui passe. L'histoire du maire, j'y crois pas trop parce que je vois pas comment un maire peut engager des sommes à la mairie sans son conseil municipal. C'est le seul truc que j'ai pas bien compris, il faudrait que je demande à l'auteur. Bon, il y a une petite chose qui me gêne. Mais à part ça, c'est donc, je dis tout de suite ce qui m'a pas plu, mais tout le reste, le style, enfin tout est, vous embarque vraiment dans cette sorte de fatalité, d'aventure banale, en fait. Hein. Et je vais juste vous donner, pour que vous, à moins que j'ai le temps encore de causer, mais je vais aussi vous expliquer, parce que peut-être que vous ne le savez pas, ce qu'est l'article 353 du Code pénal.
C'est exactement la question que j'allais te poser.
Parce que tu ne le sais pas.
Non plus.
Eh bien, l'article 353 du Code pénal est un article
pénal,
est un article qui dispose que les juges et les jurés
ne doivent se fier qu'à une chose et une seule au moment de rendre leur verdict, à savoir s'ils sont habités par une intime conviction.
Ah, c'était ça le...
C'est ça.
D'accord.
L'intime conviction.
Je connaissais le contenu.
Sur le fait de dire coupable ou non coupable, il faut en avoir la conviction. D'accord. C'est vraiment individuel. Et c'est bien pour ça que c'est si dur d'être juré. Et donc, nous, on est des juges d'instruction. C'est-à-dire qu'ils parlent aux juges d'instruction, mais ils nous parlent. Mmh. Ils nous racontent son histoire jusqu'au bout. Et on est face à cette histoire. Et qu'est-ce qu'on pense? Quelle est notre intime conviction?
Et alors, c'est là, au niveau de la narration, c'est lui qui parle ou il y a des interactions
raconte.
Aussi
il
avec,
raconte. Ah oui, bien sûr, il y a des dialogues, il y a des choses, bien sûr. Mais il raconte et puis on vit la scène, bien sûr, il y a des dialogues, c'est très vivant. Hein, c'est un huis clos, en fait, puisqu'il raconte une histoire, mais c'est une histoire où on part dans l'histoire. Donc, c'est tout à fait passionnant. On part en bateau, on va se promener, on découvre les... Voilà, il y a une véritable découverte de cette... C'est une petite ville de province, comme il y en a évidemment beaucoup en France, avec des gens blessés, marqués, mais aussi fragiles et donc plus faciles à tromper. Donc voilà le livre dont je voulais vous parler, également se lit d'une traite.
Oui, c'est ce que tu disais en micro tout à l'heure. Ouais, c'est bien ça.
Tanguy Viel, V-I-E-L, article 353 du Code pénal. Maintenant, vous saurez, intime conviction. Publié aux éditions de Minuit. Je cherche juste la date parce que ça peut aider quand même. Aux éditions de Minuit 2016. Bon, c'est pas vieux. 2016.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous retrouve juste après la pause musicale. Voilà, c'était Eric Lenguini et Mamani Kaïta, grande chanteuse malienne, avec le titre Yann Kadi de l'album Sing Twice. Et maintenant, je vous propose d'écouter tout de suite la chronique d'Alice enregistrée il y a maintenant une bonne année. Oui, une chronique essai. Je vous laisse écouter ça.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre paru en 2016 aux éditions La Fabrique qui s'appelle Un boycott légitime, sous-titré pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Et c'est de deux auteurs, Eyal Sivan, cinéaste israélien, et Armelle Labori, qui est productrice de films documentaires. Alors BDS, c'est quoi ? En toutes lettres, BDS, ça signifie boycott, désinvestissement, sanctions. Il s'agit d'un mouvement qui a été lancé officiellement en 2005 par 171 ONG palestiniennes qui se sont inspirées des campagnes de boycott organisées contre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Alors l'idée, c'est d'inciter tous les citoyens du monde à boycotter les produits israéliens pour obtenir la fin de la colonisation en Palestine, l'égalité des droits pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Parmi les soutiens à BDS, on compte des gens comme Ken Loach, Mike Lee, Jean-Luc Godard, Viggo Mortensen ou encore Eric Clapton. Alors forcément, il y a le boycott économique qui peut peser sur un pays. Mais BDS concerne aussi la culture et la recherche universitaire, en considérant que boycotter la culture et le savoir, eh bien c'est un moyen de pression politique. Et si les deux auteurs ont choisi de se concentrer sur ces deux pans du boycott, eh bien c'est parce que c'est ceux qui suscitent le plus la polémique. En gros, boycotter les oranges ou les produits fabriqués dans les colonies israéliennes implantées en Palestine, ça peut passer. Mais boycotter des auteurs et des universitaires, eh ben là, ça devient une atteinte à la liberté d'expression, parce que finalement, ça revient à empêcher les opposants israéliens de s'exprimer. Il faut savoir que Manuel Valls en France et Justin Trudeau au Canada ont quand même appelé à légiférer contre le mouvement BDS, qui finalement n'est rien de moins qu'un mouvement de défense pacifiste. Alors, c'est là que ce petit livre est absolument passionnant. D'abord parce qu'il décrypte le mécanisme israélien de propagande culturelle. Il faut savoir que cette campagne BDS inquiète réellement les autorités israéliennes. En 2015, le président israélien Reuven Rivlin estimait que BDS était, je cite, « une menace stratégique de premier ordre ». Alors pour les autorités israéliennes, tout est une question de malentendu. Donc depuis 2007, le dispositif dit de la Hasbara doit aider le monde à mieux comprendre Israël via différentes méthodes mises en place au sommet de l'État. En 2015, Benjamin Netanyahou a donc créé un poste de ministre des Affaires stratégiques et de la diplomatie publique chargé de la lutte contre le BDS. Et là, c'est la grosse armada. Les moyens alloués ont atteint 30 millions d'euros en 2016. Le but, c'est de diffuser la bonne parole partout dans le monde et de faire oublier l'image de guerre qui est trop associée à Israël. Donc, opération marketing en cours, il faut changer l'image déplorable du pays et faire d'Israël une source d'attraction touristique et économique et surtout compatible avec le mode de vie occidental. Voilà comment Tel Aviv devient « the place to be » et la terre d'élection de la communauté LGBT. Comment Israël devient une démocratie exemplaire où la presse bénéficie d'une large liberté d'expression. Ou encore comment sur le plan économique, Israël est la nouvelle start-up nation. En quelques années, le conflit palestinien est passé au second plan pour faire du pays la destination à la mode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour y arriver, Israël emploie tout un tas de médiateurs. Et notamment des médiateurs numériques, dont le job consiste à diffuser la bonne parole via les réseaux sociaux. Alors, il s'agit de citoyens israéliens bénévoles, mais aussi de juifs sionistes, recrutés dans le monde entier, qui sont formés pour répondre aux commentaires postés sur le web suite à des articles de presse, par exemple. Les étudiants israéliens à l'étranger sont également de parfaits porte-parole de l'État sur les campus où Israël est un peu mis à mal avec les campagnes BDS. Le pays dispose aussi de chaînes YouTube, de comptes Instagram, etc. pour diffuser l'art de vivre, la créativité, l'humour israélien. Le souci, expliquent nos deux auteurs, là, c'est que tout ça n'est qu'une façade qui ne correspond en rien à la réalité du pays. Alors Tel Aviv est certes tourné vers l'Occident, mais visiblement c'est loin d'être le cas dans le reste du pays. Ce que nous démontrent Eyal Sivan et Armelle Labori, c'est qu'Israël procède de la même manière avec la culture et les universitaires. D'ailleurs, le directeur général du ministère des Affaires étrangères le dit clairement, je cite, « Nous considérons la culture comme un outil de premier ordre pour la Hasbara. Je ne fais aucune différence entre la Hasbara et la culture. » Donc, il faut savoir que toutes les œuvres qui parviennent jusqu'à nous ont obtenu l'aval de la DCSA, qui est la division des affaires culturelles et scientifiques du ministère des Affaires étrangères. Et là, Le but est de montrer une facette progressiste d'Israël, une facette compatible avec ce qu'attendent les Occidentaux, à savoir antimilitariste, anti-occupation, féministe, multiculturelle et pro-gay. Du coup, les œuvres autorisées traitent de sujets sociétaux internes au pays, mais plus du conflit palestinien. C'est-à-dire que quand il est question de guerre, il est question de difficulté à vivre le conflit du point de vue des Israéliens, mais on ne voit plus d'opposition aux Palestiniens. Et la directrice d'une école de cinéma explique très clairement que les intrigues des films se tournent désormais vers l'aspect sentimental des soldats. Elle dit, je cite, « On voit des êtres humains et pas des bourreaux, ils sont humanisés. Montrer les incertitudes de nos soldats, ça sert la cause d'Israël. » Fin de citation. Israël laisse donc s'exporter un message de dissidence, mais une dissidence choisie et assumée, qui redore son blason en montrant combien il est démocratique puisqu'il laisse l'opposition s'exprimer. Reste que cette dissidence officielle oublie juste de rappeler que la création artistique et culturelle palestinienne est entravée depuis 50 ans, à travers des théâtres fermés, des institutions artistiques saccagées, des livres censurés, des artistes emprisonnés, et qu'il ne fait pas vraiment bon être un universitaire opposé à l'État sous peine de sanctions sévères. Bref, quand on ferme ce petit livre, on balaye rapidement, comme ça, les derniers films vus ou les derniers articles lus, et on se dit que oui, en effet, la Hasbara est redoutablement efficace.
Alors, très rapidement, pour terminer cette émission, un conseil BD. Je voulais vous parler d'une histoire populaire de l'Empire américain aux éditions Vertige Graphique, d'Howard Zinn. Howard Zinn, c'est tiré de son livre, en fait, qui porte exactement le même titre. C'est absolument passionnant. C'est surtout parce que ça donne la parole aux exclus, à tous ceux qu'on n'entend pas, pour reconstruire, pour replonger dans le passé américain, avec ses zones d'ombre, avec tous ces secrets, toutes ces choses qui ne sont pas dites, en général, dans les journaux, dans les livres. Enfin voilà, c'est Howard Zinn, je vous invite à découvrir sa littérature. C'est un homme très engagé. J'en dis pas plus parce qu'on a vraiment, vraiment plus le temps. Donc, une histoire populaire de l'Empire américain, Howard Zinn, accompagné de Mike Konopaki et Paul Bull aux éditions Vertige Graphique. Mesdames, je vous souhaite une excellente après-midi. Je suis sûre que vous allez encore aller bouquiner. Hein, ouais, c'est bien possible. Hein. Ou aller fouiller à la bibliothèque, dans les bonnes librairies de Blois.
Exactement. Hein.
Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous, chers auditeurs et auditrices, d'excellentes fêtes de Noël. Et puis, Du vent dans les pages revient en 2019 avec vous, Annie-Catherine.
Hein, ça, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, ça.
Avec des nouvelles découvertes et nouvelles passions. Merci beaucoup, à très bientôt à la radio.